Radio Kapi. Oh, Kapi. Journal présenté par Grace Amzati Massamdi.
À la une, c'est le 44 février, déclarent certains fonctionnaires de l'État avec une dose d'ironie pour réclamer leur salaire du mois dernier. Ils disent vivre difficilement, notamment ici à Kinshasa, où tout doit être acheté. Mais comment se débrouille-t-il à suivre à l'ouverture de ce journal? 30 personnes ont été kidnappées hier par des personnes non encore identifiées dans la localité de Digba, située à 45 km d'Ango, dans la province du Bazuélé. Jacques Mukonkole nous en dira plus tout à l'heure. Madame, Messieurs, bonjour. Les fonctionnaires de l'État n'ont jusqu'ici pas touché leur salaire du mois dernier. C'est le 44 février, affirment certains d'entre eux avec une dose d'ironie. Ils disent vivre difficilement ainsi que leur famille. Comment se débrouillent-ils au quotidien dans une ville où pratiquement tout doit être acheté? Marie-France Mungindou s'est entretenue avec certains et nous en parle ce reportage.
Arnold Tijiba, fonctionnaire de l'État, exprime sa douleur, celle d'être un père de famille impayé, incapable de subvenir aux besoins de sa famille.
C'est vrai que le salaire est dérisoire, vraiment très bas. Mais si au moins ce régulier est ponctuel, il n'y aura pas assez de dégâts. Avec ces glissements salariales, nous manquons de quoi vivre, nous manquons de quoi manger, nous manquons de quoi se laver, même le savon nous en manquons. Nous souffrons.
Selon les témoignages recueillis, plusieurs d'entre eux recourent à la Banque Lambert pour survivre. Un système qui les appauvrit davantage. Car, avec des dates de paye incertaines, les intérêts augmentent. Bill Lendo, fonctionnaire.
La situation est invivable. Il faudrait chercher la vie sous une autre forme pour essayer un peu de demeurer parent à la maison. Nous avons des gens qui font ce qu'on appelle la banque Lambert. Quand vous empruntez l'argent chez eux, il faut payer avec 50% d'intérêt. C'est déjà une forme d'hypothèque que vous faites de votre propre salaire.
Nous sommes dans la désolation depuis plus d'un mois. Nous vivons dans des conditions difficiles, nous dit Gabi Chongo, syndicaliste.
On nous demande de maximiser les recettes. Avec quelle motivation on va maximiser les recettes?
Gouverner, c'est prévoir, affirment ces fonctionnaires. Pour eux, le gouvernement savait qu'il serait démissionnaire après les élections. Il fallait apprêter les enveloppes salariales en conséquence.
Merci à vous, Marie-France, pour toutes ces précisions. Et puis, ouverture ce vendredi 15 mars de la session ordinaire de mars, conformément à l'article 115 de la Constitution. Alors que le Sénat, qui est encore en vacances, aura une rentrée parlementaire effective, l'Assemblée nationale va poursuivre la session extraordinaire en cours. D'après le député national Gary Sakata, en vertu de l'article 114 de la Constitution, cette session extraordinaire à l'Assemblée nationale doit se poursuivre jusqu'à l'épuisement des points à l'ordre du jour. Gary Sakata est au micro de Michel Kifindangoy.
L'ouverture de la session le 15 mars, donc ce vendredi, sera effective ou est effective. Parce que, selon la Constitution, spécialement l'article 115, la session s'ouvre le 15 mars ou, selon le cas, le 15 septembre. Il faut bien comprendre que cette ouverture est de plein droit. Mais seulement, puisque le bureau provisoire n'a pas encore fini ses missions, la séance inaugurale de la session de mars ne commencera qu'avec l'installation du bureau définitif, que celui-ci soit installé au mois d'avril, au mois de mai, pourvu que ce soit avant le 15 juin. Et ensuite, commencera directement la session de mars avec une séance inaugurale. Le bureau provisoire actuel a trois missions. La validation du pouvoir, ça a déjà été fait. L'élection et l'installation du bureau définitif, ça c'est pas encore fait. Donc, tant que l'ordre du jour n'est pas encore épuisé, l'on doit donc poursuivre cette session extraordinaire.
Notez que l'Assemblée nationale sera ce vendredi en plénière afin d'examiner le règlement intérieur. Le Conseil d'État appellera à son audience publique de ce vendredi 6 affaires relatives au contentieux électoral des résultats législatifs provinciaux. Après l'examen de ces contentieux en province, quelques requérants contestent les arrêts des cours d'appel de certaines provinces devant le Conseil d'État. Il s'agit entre autres des affaires concernant les regroupements politiques à nom de bâtir le Congo contre ACPA, Alliance pour les valeurs contre la CENI et consorts, AADA contre la coalition des démocrates, AACPG en contestation de l'élection du candidat député Christian Katembo du parti CRPR et de la CENI, AMSC en contestation de l'élection de Daniel Kambale de la AADA et consorts. Parlons de cette plainte de la Fondation Musée Laurent-Désiré Kabila. Elle dénonce le saccage de ses installations à la Gombessie à Kinshasa, mardi par des militaires des services de sécurité. Dans un communiqué signé le même jour par sa présidente, Jeannette Kabila, elle dit condamner cette énième violation de ses locaux par des services de sécurité sans aucun document d'autorisation. La Fondation Musée Laurent-Désiré Kabila dénonce également la saisie de plusieurs biens, notamment des ordinateurs portables, des clés USB, des téléphones, voire les véhicules ayant servi au transport du corps de ces héros nationaux. Elle s'insurge également contre l'enlèvement de 3 de ses agents et 2 gardes dont elle demande la libération immédiate. Notez aussi cette déclaration conjointe des ambassades de l'Allemagne, du Canada, de la France, de Norvège, Pays-Bas et de la Suisse en RDC en rapport avec le journaliste Stanley Boujakira. En tant que membre de la Coalition pour la liberté des médias, nous sommes préoccupés par la détention continue du journaliste Stanley Boujakira et appelons les autorités à assurer un procès juste et équitable en accord avec les droits nationaux et internationaux, écrivent-elles. Et d'ajouter, je cite, « Nous continuerons à suivre de près les procédures en cours et à soutenir la liberté d'une presse indépendante et pluraliste. » Fin des citations. Comme annoncé au sommaire, dans la province du Bazouélé, 30 personnes ont été kidnappées par des personnes non encore identifiées dans la localité de Digba, située à 45 km d'Ango, chef-lieu du territoire portant le même nom. Ango est à plus de 500 km au nord de Kisangani. Plus de précisions avec Jacques Mkonkoli.
L'incident s'est produit ce jeudi vers 1h du matin, rapporte l'administrateur du territoire d'Ango. Marcelin Lekaboussia précise que parmi les personnes enlevées figurent 16 filles et 14 garçons. Tous ont été conduits à une destination inconnue par les assaillants. Par ailleurs, déclare la même source, ces derniers ont aussi pillé 35 maisons et emporté beaucoup de biens des particuliers. Le centre de santé de la place n'a pas été non plus épargné. Tous les matériels médicaux et les médicaments qui s'y trouvaient ont été emportés. Signalons par ailleurs que dans la nuit de dimanche à lundi, des hommes armés avaient enlevé 3 personnes dans la localité Gouanée, toujours dans la chefferie Sassa. 2 d'entre elles ont réussi à s'échapper des mains de leurs ravisseurs et ont regagné leur village. Face à cette insécurité persistante, l'administrateur du territoire d'Ango continue à plaider auprès du gouvernement en faveur du renforcement des effectifs des militaires dans cette contrée. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Par ailleurs, au Nord Kivu, les acteurs humanitaires ont besoin d'un minimum de 2,6 milliards de dollars américains pour assister 8,7 millions des personnes les plus vulnérables en RDC. C'est ce qui révèle le représentant du bureau de OCHA à Genève et directeur de la division de la coordination des opérations humanitaires, Ramesh Rajasingam, qui est en visite d'évaluation de la situation humanitaire dans le Nord Kivu, a rencontré mardi et mercredi à Goma les autorités provinciales ainsi que les humanitaires et personnes affectées par la crise. À Goma, Bernard Nyangi.
Arrivé mardi à Goma, M. Ramesh Rajasingam a effectué hier mercredi une visite au site des déplacés de Lushagala, Bulengo et Bouimba, à quelques kilomètres à l'ouest du centre-ville de Goma. Dans ce site, le constat est plus que désolant. Sur les 25 000 déplacés que compte le nouveau camp de Bouimba par exemple, et où interviennent les ONG Oxfam et MSF, moins de 40% sont assistés. Les humanitaires avec lesquels il a eu à échanger évoquent ainsi un gap d'intervention très important. Pour ces humanitaires, en effet, actuellement, presque toutes les interventions sont concentrées à Lushagala, oubliant ce nouveau site. Ils ont ainsi exprimé un besoin urgent du renforcement de la coordination santé et du WASH pour adresser les menaces, entre autres, de l'épidémie de choléra qui sévit depuis quelques mois dans la région. Ce voyage du représentant du bureau de OCHA à Genève coïncide avec la crise actuelle exacerbée par la rébellion du M23 qui a mis plus d'un million de personnes sur le chemin de l'exil. Après Goma au Nord Kivu, M. Ramesh poursuit cette visite humanitaire au Sud Kivu. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Toujours au Nord Kivu, sachez qu'un peu plus des 46 000 ménages de déplacés localisés dans 2 sites au quartier Mugunga et Lac Vert à l'ouest de Goma bénéficient d'un don en vivres du gouvernement congolais. La distribution a été lancée mercredi par la conseillère principale du gouverneur des provinces à l'intérim. Cette assistance, composée de farine de maïs, du haricot et de l'huile végétale, est distribuée par la Caritas du diocèse de Goma. Chaque ménage de ces déplacés venus de l'axe Sakeminova dans la dernière vague a bénéficié d'un sac de farine et 10 kg des haricots. Rappelons qu'une délégation mixte gouvernement central et assemblée nationale a acheminé cette assistance lors de la visite des compassions en début du mois à Goma. Pendant ce temps, la situation est restée volatile. C'est jeudi sur l'axe Sake-Buremana, au sud du territoire de Masisi, toujours au nord Kivu. C'est au lendemain d'une journée agitée mercredi à la suite des tirs de bombes attribués aux rebelles du M23 sur les zones habitées. Ces bombardements perturbent la navigation des civils sur le lac Kivu entre Minova et Goma. Par ailleurs, les principales agglomérations sur l'axe Buremana-Sake restent vidées de leurs habitants. Cette autre nouvelle, le réseau des femmes des entreprises du Congo, REFEC, a réfléchi ce jeudi à Kinshasa sur l'importance de structurer l'entrepreneuriat féminin. C'est en marge de la célébration de la journée de la femme. Pour Ernestine Nchombo, secrétaire exécutive adjointe de cette structure, garantir les droits des femmes et des filles dans tous les domaines de la vie est le seul moyen de bâtir les économies justes et prospères, mais aussi de préserver une planète saine pour les générations futures. Explication de Greta Lulendo.
Les femmes du REJEC sont venues nombreuses pour célébrer la femme de l'entreprise. Léonie Kandolo, experte en genre, a dévoilé aux femmes entrepreneurs que le secret de l'épanouissement dans les affaires et l'organisation.
Vous devez vous structurer dans vos entreprises. Arrêtez d'être des entrepreneurs de besoin, d'être des entrepreneurs d'occasion. Devenez des entrepreneurs par choix. Et savoir que l'entrepreneuriat demande énormément de sacrifices physiques, financiers.
Bertha Kachiosako, coordonnatrice générale du REFEC, a plaidé pour la considération de la femme au sein de l'entreprise.
Nous lançons un appel à toutes les autorités qu'ils tiennent compte de ces femmes techniciennes qui ne font pas la politique, mais qui maîtrisent ces entreprises. Depuis des années, elles sont là, elles connaissent les rouages pour développer les entreprises qui sont appelées aujourd'hui canards boiteux.
Willy Lunga, conseiller d'études de la ministre du Genre, a au nom de cette dernière rassurer le REFEC de son soutien indéfectible. Notez que le REFEC œuvre dans l'encadrement de près de 50 entreprises publiques. Il a pour mission de valoriser le secteur du travail en encourageant la parité.
Greta Lulendo sur Radio Okapi. Améliorer la qualité des diagnostics des laboratoires dans la ville de Kinshasa, c'est l'objectif du projet d'appui au système des laboratoires de la capitale congolaise lancé hier par le ministre de la Santé. Ce projet est mis en œuvre par l'Expertise France sur financement de l'Agence française de développement AFD. Paul Matendo pour les détails.
Pour le ministre de la Santé, la première phase de ce projet pilote concerne les zones de santé périphériques de la ville-province de Kinshasa. Ces zones de santé constituent, selon lui, les portes d'entrée de certaines épidémies prioritaires. Serge-Emmanuel Olen.
Dans un premier temps, on a ces zones de santé les plus périphériques de la zone de Kinshasa. Et on commencera, comme je l'ai bien compris, et monsieur le représentant l'a dit, avec le laboratoire de la maternité de Kingasani, qui reçoit beaucoup de patients et qui est dans la maternité gratuite. Donc je pense que le projet est à point nommé.
En ce qui le concerne, l'agence française de développement souligne que ce projet comprend quatre composantes, parmi lesquelles le renforcement de la direction des laboratoires de la ville de Kinshasa, comme l'explique Aruna Traoré, le chef de ce projet.
Il y a dans le système de santé des remontées régulières des données qui sont en place et on va les renforcer pour qu'ils soient de qualité. Et la troisième composante, il y a une direction des laboratoires qui existe au niveau du ministère de la Santé que nous allons renforcer pour qu'ils puissent coordonner l'ensemble des intervenants en matière de laboratoire dans le pays. Et la quatrième composante, c'est une composante renforcement des ressources humaines. On paye des équipements, on renforce les laboratoires, mais le plus souvent, les équipements tombent en panne. Il y a l'ISTA qui existe à Kinshasa, que nous allons renforcer pour, en tout cas, former des ingénieurs en maintenance biomédicale.
Le coût total de ce projet est de 12 millions d'euros et s'étale sur une période de 4 ans, a conclu l'AFD.
Actualité internationale.
Au Sénégal, l'opposant numéro 1 du pays, le fondateur du parti dissous, Pastef, Ousmane Sonko et son fidèle lieutenant et candidat à la présidentielle du 24 mars, Bassirou Diomaye Faye, ont quitté la prison de Cap Manuel ce jeudi soir. Et puis, le ministère de la Santé du Hamas a fait état tôt ce vendredi 15 mars des 14 morts et des plus d'une centaine de blessés dans les tirs israéliens sur une foule attendant de l'aide humanitaire dans le nord de la bande de Gaza.
L'invité.
Il s'agit de Mathias Makolovera, président sous-secrétaire de l'UNPC dans la province du Tanganyika. Il s'est impliqué dans les dossiers des journalistes et des MOBA qui vivent en cachette parce qu'ils sont traqués par les services de sécurité. Mathias Makolovera s'entretient avec Paul Mounanga.
Monsieur Mathias Makolovera, bonjour.
Bonjour Paulin Mounanga.
Qu'est-ce qui se passe avec les journalistes de Moba qui vivent en clandestinité depuis quelques semaines? Vous revenez de Moba, vous vous êtes rendu pour vous enquérir de ces dossiers au nom de l'UNPC.
En effet, à Moba, il y a eu un problème. Le problème, c'est l'insécurité. Cette insécurité qui devenait un peu recrudescente au niveau du territoire de Moba n'a pas arrangé la population de Moba. Et cette population a commencé à s'alarmer et faire des déclarations. Ces déclarations qui sont relayées par les journalistes, comme c'est dans leur rôle régalien, relayées par des journalistes dans des radios. Et les journalistes se sont mêlés dans la population pour commencer à sensibiliser la population, mais également appeler la population à la vigilance. Malheureusement, la tenue de ces émissions a eu des débordements selon le rapport de l'administrateur des territoires qu'on a eu à rencontrer à Moba quand je suis descendu personnellement. L'administrateur des territoires s'est insurgé contre des émissions qui ont eu à déborder dans leur philosophie. Le gouvernement reproche à ces journalistes la sensibilisation qui frise à l'incitation à la haine tribale, qui frise à l'incitation au trouble, à l'ordre public. Ça, c'est selon les rapports recoupés sur place.
À vous entendre parler, on peut dire que les journalistes n'ont pas bien fait leur travail. Ils n'ont pas respecté la déontologie.
Je suis allé personnellement pour m'imprégner de cette situation. Dans les réseaux sociaux, on attendait ce qu'on attendait et nous, on ne pouvait jamais autoriser qu'il y ait une menace contre la liberté des presses dans la province du Tanganyika. Et déjà, des alertes précoces qu'on a eues au départ nous ont poussé à effectuer tout un déplacement à Moba. C'est à plus de 300 km de Kalemie. Nous avons rencontré les autorités locales. On a écouté la partie des autorités locales. J'ai personnellement réuni tous les journalistes du territoire de Moba pour les écouter aussi et écouter aussi les journalistes qui sont aujourd'hui en cachette, ceux qui sont poursuivis, parce que c'est toute la presse qui est poursuivie, mais je ne comprenais pas comment il y a seulement certains noms qui étaient ciblés, et moi, je devais me rendre compte de ça. C'est-à-dire que l'État congolais a suivi ceux qui ont eu à participer directement dans des émissions, ceux qui ont donné leur point de vue dans des émissions avant cette marche-là. Alors, en analysant, j'ai trouvé que la presse est allée quand même au-delà de la plaque. C'est-à-dire qu'on a eu à déborder certaines règles de notre métier, parce que nous avons notre guide principal, c'est l'éthique et la déontologie journalistique. Et il y a plusieurs articles qui nous invitent à être très professionnels. Si vous allez à l'article 14, si vous allez à l'article 5, on nous interdit de nous jeter dans toute démarche qui friserait à l'incitation à la haine tribale ou encore à la manifestation appelant au trouble. Alors, j'ai eu à condamner personnellement d'abord les débordements de la population, bien que n'étant pas auteur direct de tous les dégâts collatéraux qui s'en sont suivis, mais au moins, c'était de mon devoir de les renforcer en capacité et de les rappeler encore au professionnalisme. Et ce qui nous reste actuellement là, c'est encore de continuer à multiplier ces genres de renforcement des capacités.
Et dans une situation pareille où les journalistes sont reconnus d'une certaine manière comme étant coupables d'avoir été à la base des troubles à Moba qui ont fait des dégâts et des victimes, comment doit se comporter l'UNPC par rapport à cette situation?
L'UNPC est l'organe d'autorégulation. C'est-à-dire, nous sommes là, nous sommes la police de notre éthique et déontologie, et nous sommes l'interface entre la presse et le gouvernement. Et il s'est fait malheureusement qu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes face au gouvernement congolais, parce que nous avons enfreint certaines lois de la République. Et je dois le rappeler ici qu'en étant journaliste, cela ne nous donne pas droit à tout. Nous sommes congolais comme tout autre, et nous devons respecter les lois du pays. Nous ne sommes pas exemptés des infractions de droit commun. Si nous avons un problème avec l'État congolais, sur base du droit commun, soit des lois de la République enfreintes, nous ne pouvons que négocier avec l'État congolais.
Et vous dites que vous êtes en pourparlers avec les autorités à ces sujets. Comment réagissent ces autorités?
Les autorités nous prêtent une oreille attentive, étant donné que nous sommes l'interface, nous sommes plutôt leurs interlocuteurs. Dès lors qu'on a un problème, d'abord je salue ici la confiance que l'armée, la police et les services de sécurité ont placée à nous. Quand nous sommes arrivés à Moba, on a demandé qu'on nous laisse quand même un couloir afin que nous puissions rencontrer tous les journalistes de Moba sans inquiétude. Pendant qu'ils étaient déjà en cachette, mais les services de sécurité nous ont accordé et nous sommes allés à la rencontre de nos confrères pour les écouter de près. On les a écoutés et nous nous sommes décidés dans l'ensemble de faire une déclaration pour demander pardon au gouvernement, chose qui a été faite sur place.
Monsieur Mathias Makolovera, je vous remercie.
Notre invité répondait aux questions de Paul Mounanga. Ainsi prend fin ce journal, coordonné et supervisé par Pele Kipela Mondo et mis en onde par Jean-Noël Mokundo Yogo. Vous pouvez les retrouver sur www.radiokapi.net. Merci.